Alléluia. Bonjour à tous. Alors, les professeurs émérites, on oublie. Hein. Évidemment, c'est très gentil de la part de celui qui dit ça, mais je crois que ce qui fait la valeur d'un homme, c'est la présence de Dieu en lui. C'est rien d'autre, finalement. Tout est grâce. Bon. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin « D'aplomb sur le Messie qui vient ». Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que les temps que nous vivons ces dernières années sont particulièrement étonnants, bizarres, chahutés, au point même qu'il y a un enchaînement souvent de catastrophes incroyables. Ça n'arrête pas. Après l'un, c'est l'autre. Après la vague des mouvements, heureusement qu'ils existent, écologiques, ça a été la pandémie. Après la pandémie, c'est la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il y aura après? On annonce des disettes, une sorte de famine, manque de blé, etc. Puis en même temps, cela ne nous empêche pas, du moins je l'espère, de nous rendre compte, de pressentir qu'il y a quelque chose qui se prépare, que Dieu n'est pas absent, qu'il est toujours aux commandes, et que même, comme Jésus l'a proclamé dès le début de son ministère, il a dit, comment est-ce qu'il a dit ça déjà? croyez, oui, le royaume de Dieu est proche. C'est pourquoi, changez de vie, préparez-vous à changer de vie et que vous fassiez une entière confiance au message de l'Évangile, à ce que je vous dis. Il y a un peu ces deux choses à la fois. Une crainte, une oppression qui nous vient des nouvelles du monde, et en même temps une force, quelque chose qui nous ranime. Alors c'est bien connu que certains, malgré la foi qu'ils peuvent avoir, on entend même, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure dans le message prophétique de Daniel, qui parlait de ceux qui sont dans la détresse, dans la difficulté, etc. D'un côté c'est vrai, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont opprimés, oppressés, inquiets, parce qu'ils écoutent les actualités dans les médias, sur les réseaux sociaux, et il y a un poids qui peut venir comme ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que nous avons en Jésus-Christ une plénitude, une force qui nous relève chaque fois, enfin moi en tout cas c'est ce qui se passe, et qui nous revigore extraordinairement. Alors il y a comme une espèce de renversement, il y a comme une espèce de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, deux choses qui arrivent en même temps dans le monde. Il y a ceux qui refusent d'écouter le Seigneur, qui ne sont pas intéressés par ce qu'il nous propose, ce qu'il nous donne, et qui malheureusement cherchent uniquement à se préserver eux-mêmes, qui s'arrangent avec le monde, qui manœuvrent, qui magouillent aussi, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir être au-dessus du panier. Et ceux-là, ils se perdent eux-mêmes, malheureusement. Il faut avoir pitié d'eux, parce que c'est souvent parmi les gens les plus forts, les plus doués, ils sont apparemment ceux qui réussissent, apparemment ceux qui s'en sortent bien, et puis en même temps, eh bien, ils se perdent. ils sont dans une obscurité qui va en augmentant. Et puis l'autre partie, l'humanité de Dieu, l'humanité qui marche déjà avec Dieu et qui marche, on pourrait dire, dans la lumière du matin. Il y a un texte biblique qui dit ça. La lumière va croissant jusqu'au matin, jusqu'au milieu du jour. Et ce peuple-là dont nous faisons partie, je le crois, je l'espère, marche dans la joie, dans la vie qui va croissant. Vous savez, je crois que vous êtes bien disposés. Vous savez comment je le sais, vous qui êtes ici. Je crois que vous êtes bien disposés envers le Seigneur. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous savez comment, pourquoi je le sais ? C'est pas difficile. C'est parce que vous êtes là. Vous ne seriez pas là si vous étiez des rebelles. Enfin, s'il y a un rebelle ou l'autre, tant mieux aussi. Pas à cause de l'esprit qui pourrait infester cette assemblée, mais parce qu'il va être sauvé, parce qu'il va se retourner vers le Seigneur. Alors, c'est une joie. Il y a un verset, vous savez, attendez voir, il ne faut pas que je me... Oui, donc je crois que nous sommes de ceux qui ont le cœur ouvert et qui en même temps se sentent fatigués, peut-être submergés. Il y a même des gens qui se demandent, moi ça m'arrive des fois, je devine en tout cas dans mon esprit que c'est comme ça, en partie dans les églises. Il y a même des gens aujourd'hui qui se disent, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de tenir bon dans la foi? Est-ce que ça vaut la peine de se priver de quantité de choses que le monde pourrait nous offrir et qui, du point de vue de Dieu, pourraient vite devenir des idoles, des choses qui nous écartent de Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de tenir dans cette fermeté, dans cette foi, dans cet amour, quand on voit à quel point le monde bascule dans la folie et que finalement, il n'y a pas réellement des progrès du côté du monde? Oui, du côté de Dieu, du côté du peuple de Dieu, je crois au progrès. Je crois que de siècle en siècle, nous pouvons intégrer des vérités, une puissance de vie qui nous remet debout, ça je crois. Mais du point de vue du monde, si on regarde, il y a des progrès apparents. Dans certains domaines, il y a des progrès parce que quand même l'Évangile opère une influence même sur les non-croyants, même parfois sur des gens parfaitement idolâtres, endurcis, parce que quand même ça passe quelque part. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a aussi des régressions. Il y a aussi des... Par exemple, dans le domaine médical, on a fait des progrès extraordinaires, mais en même temps, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent. Alors, je ne dis pas ça pour nous décourager, puisque le Seigneur guérit les malades et qu'il veut nous guérir aussi, mais il faut reconnaître qu'il y a des progrès d'un côté et il y a des régressions de l'autre. Donc, du point de vue de l'humanité qui ne compte que sur elle-même, il n'y a pas véritablement une avancée. Alors, comment que répondre? Eh bien, à ceux en particulier qui sont défaillants, à ces croyants, il y a des croyants qui se disent, mais au fond, à quoi je sers? Je n'apporte rien, je ne progresse pas, parce qu'ils sont peut-être un peu trop à l'écoute des réseaux sociaux, à l'écoute de toutes sortes de médias qui véhiculent un message qui matraque, qui fait tomber, qui décourage. Alors, il ne faut pas trop s'étonner. Je crois que ce dont nous avons besoin particulièrement, c'est d'avoir une vision globale, une vision la plus complète possible du dessein de Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais réalisé. Ils prennent le message biblique ou la prédication chrétienne comme une suite de conseils moraux pour mieux s'en sortir, pour avoir des avantages, pour être béni, oui, bon, pour avoir aussi la vie éternelle pour quand on sera mort, ça, d'accord, mais qui ne voit pas où Dieu veut en venir. Alors, je ne sais pas où on en est ici, mais je rencontre quand même assez souvent des chrétiens, et même des chrétiens zélés, même des chrétiens moraux, qui font un effort pour être le mieux possible, mais qui n'ont jamais saisi le plan de Dieu dans sa globalité. Qu'est-ce qui pourrait me dire, soit me citer une citation biblique, soit me résumer en quelques mots, quel est le dessein global que Dieu poursuit avec l'humanité dans le monde? Qui c'est qui pourrait? Qui veut se risquer? Où est-ce que Dieu veut en venir, finalement? Alors, oui. Oui, non, mais c'est juste. Non, mais c'est juste. Je pense que la plupart vont sortir des réponses justes, mais ce n'est pas assez global. Quelle est la globalité, la finalité? Pardon? Il cherche des adorateurs, oui, mais ça ne définit pas la finalité. Ça définit un désir de Dieu, ça c'est sûr. Et il cherche effectivement des adorateurs. Mais ça ne définit pas suffisamment. Oui, ça c'est la piste, ça. Attendez, on va. Qui c'est qui disait quelque chose, là? Oui, exactement. Hein, Christophe cite là, dans l'Épître aux Colossiens en particulier, on voit ce désir de Dieu de réconcilier le ciel qui est le monde de Dieu, qui n'a pas été touché par le péché ni par la mort, qui est intact, qui est splendide. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, à part des anges, mais en tout cas, c'est intact. Et puis la terre, alors là, c'est le péché. Quoique, il y a des beautés extraordinaires, moi, je pense que la création, je pense que la contemplation de la nature, en dehors de la révélation chrétienne et de la pratique chrétienne, hein, mais la contemplation de la nature telle qu'elle est plus ou moins sortie des mains de Dieu, mais telle qu'elle est aussi honnêtement travaillée par les mains de l'homme jusqu'à un certain point, c'est bien aussi. Eh bien, la réconciliation de ces deux choses qui est comparée à un mariage, on l'a encore chanté tout à l'heure dans un de ses chants, hein, quand il est dit « l'esprit et l'épouse », ça, c'est comme un mariage. Disent « viens Seigneur ». Le but à long terme, on le trouve par exemple dans Éphésiens, on peut le montrer c'est au bimère, dans les Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10, voilà. Il nous a fait, oui, nous faisons ces prix comme ça dans le contexte d'une traduction, mais en fait c'est il, c'est Dieu en Jésus-Christ. Dieu en Jésus-Christ nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Parce que c'est un mystère. Les peuples ne connaissent pas ça. Les religions païennes ne connaissent pas. C'est un mystère qui nous a été révélé. C'est un voile qui s'est découvert. Le mystère de sa volonté. Moi, selon le dessein, moi j'aime bien la traduction, oui d'ailleurs ça y est, selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même, avant que le monde existe, en lui-même, le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit a délibéré en lui-même. Ne me demandez pas comment ça s'est fait, combien de temps ça a duré, qu'est-ce qu'il y avait avant, j'en sais rien. Mais il a délibéré en lui-même pour un projet bienveillant qui consiste, qu'il allait mettre à exécution. J'aime pas trop le mot exécution, je préfère le mot qu'il allait réaliser, parce que quand on exécute quelqu'un sur un poteau, c'est jamais très bon. Mais c'est le dessein qu'il allait réaliser lorsque les temps seraient remplis. C'est encore mieux que accompli. C'est que le temps qui doit être accompli, c'est comme une bouteille hein, qu'on doit remplir. Ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Puis à un moment donné, c'est plein. Eh bien, lorsque la bouteille serait pleine, lorsque les temps voulus par Dieu, préparatoires, pédagogiques, auraient été accomplis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, avec celles qui sont sur la terre. Réunir, c'est beaucoup plus que juste mettre ensemble. Oui, bien sûr, c'est ça, mais c'est beaucoup plus, c'est rassembler. Le mot grec, ça veut dire rassembler sous une seule tête, sous un seul chef. Parce que c'est le même mot, la tête et le chef. Rassembler sous une seule réalité, sous un seul principe de vie, sous une seule personne finalement. Trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais en Jésus-Christ particulièrement, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a fait le pont par la volonté du Père. C'est lui qui a fait le pont entre le ciel et la terre. Jésus vient du ciel et il fait son travail sur la terre. Il repart au ciel pendant un certain temps que nous ignorons exactement la longueur et il revient de nouveau sur la terre pour réunir, pour rassembler, pour réconcilier tout ce qui est dans les cieux avec tout ce qui est sur la terre. Ouh là là, ouf, quel travail. Mais il le fait. Prenons un tout petit instant de silence pour méditer cette vérité. Ça, c'est ces deux versets, et bien dans les Colossiens, on trouve les mêmes choses, dans les Hébreux éventuellement aussi, dans certaines paroles de Jésus ou de l'apôtre Pierre aussi. Ce mystère, cette volonté bienveillante de Dieu, bienveillante. Les religions ne révèlent pas des dieux bienveillants. Ou alors c'est des exceptions comme ça, des égarements presque. Mais l'Évangile nous révèle le Dieu un et bienveillant. Prenons quelques instants pour soi-même de silence devant le Seigneur pour méditer cette vérité. C'est grandiose. Oui, Jésus, tu es venu de la part du Père à la fois comme le Fils éternel qui était esprit et comme le Fils de l'homme qui est chair. Esprit et chair, non pas charnel, mais dans la condition charnelle des hommes, sans pour autant être contaminé par nos égarements et nos révoltes. Et en même temps, tu n'as jamais cessé d'être rempli du Saint-Esprit. Tu es fils de Dieu et fils de l'homme. Deux natures en une seule. Seigneur, nous te bénissons. C'est un mystère, effectivement, mais il est déjà réalisé au moins en un être humain. Au moins. En attendant d'être réalisé par des millions, peut-être des milliards d'êtres humains. Alléluia. Alors, les prophètes d'Israël, on va lire un passage parmi beaucoup d'autres, un passage prophétique qui se trouve dans Ésaïe 11, versets 1 à 10, on peut mettre au bimère, qui montre comment les prophètes d'Israël, en l'occurrence Ésaïe, s'imaginer ou en quelque sorte matérialiser cette vision globale de ce que Dieu allait faire. Et alors, je lis dans une traduction que j'ai un petit peu, enfin qui est fidèle, mais que j'ai un petit peu aménagée parfois, ici ou là. Un rameau sortira de la souche d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David, donc c'est un ancêtre de la dynastie de David, qui avait quand même, le roi David, marqué Israël par la qualité de son cœur et de sa vie, et malgré ses péchés. Alors oui, une souche sortira du... un rameau sortira de la souche d'Isaïe, une bouture naîtra de ses racines. Vous savez, de ses racines qui sont vieilles, qui sont complètement usées par le temps, mais il en subsiste encore pendant des années, elles sont toujours là. Et de temps en temps, il y a une de ces souches qui produit un rameau à partir duquel tout peut redémarrer. Il paraît qu'il y a des oliviers en Palestine qui sont vieux de pratiquement de l'âge de où le Christ est venu sur la terre. Et certains produisent encore des peut-être pas très abondants, mais enfin ils produisent encore des branches. Alors voilà, eh bien de cette bouture naîtra celui sur qui l'Esprit de l'Éternel reposera, Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de vaillance ou de force, Esprit de connaissance et de désir de plaire à l'Éternel. C'est comme ça que je rends le terme moins compréhensible aujourd'hui de crainte de l'Éternel. Le désir de plaire à l'Éternel. Il répandra une atmosphère d'écoute attentive du Seigneur. Une atmosphère d'écoute attentive du Seigneur. À son contact, les gens se mettent à écouter Dieu, notre Père. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas d'après des racontars, mais il rendra justice aux défavorisés et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Vous vous rendez compte, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle pour les malheureux de la terre. Il y a un chant socialiste au temps du marxisme qui en chantait « Debout les damnés de la terre ». Debout les damnés. Mais c'était un appel à être debout par soi-même. Ça ne pouvait pas marcher, forcément pas. Mais n'empêche que ces damnés de la terre évoqués par ces révolutionnaires, eh bien, ils vont avoir... Dieu va s'occuper d'eux et va juger les choses de manière juste. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera disparaître le méchant. Bon, ça c'est un côté qui pourrait paraître négatif, mais dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de méchants. C'est impossible que dans le royaume de Dieu, il y ait encore des gens qui pratiquent volontairement le péché. C'est pas possible. Et cela, il ne le fera pas par les armes, pas par des renforts internationaux qui viendront aider tel ou tel camp dans la guerre actuelle, mais simplement par le souffle de sa bouche, par sa parole. Sa simple parole qui va convaincre peu à peu les gens, en tout cas une certaine part de l'humanité, jusqu'à ce que le bien de Dieu, le royaume de Dieu l'emporte. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité celle de ses hanches. Le loup vivra avec l'agneau, c'est bien connu cette phrase-là, et la panthère gîtera avec le petit de la chèvre. Et ça continue, il y a d'autres comparaisons, je saute un bout. Et l'enfant mettra sans risque sa main sur l'antre de la vipère, ou du basilic, comme il est aussi dit. Il ne se fera, écoutez bien ça, il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme Père, comme Berger, comme Lumière, comme la sagesse car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, du Père, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton de David, donc le roi messianique, c'est Jésus dont on parle ici. Bien sûr, il n'est pas nommé, c'était 6 siècles ou 8 siècles avant Jésus-Christ, cette prophétie. Mais c'est bien de lui que nous reconnaissons qu'il s'agit de Jésus. Il sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Mais quand ça a été donné, cette prophétie-là, personne ne pouvait imaginer qu'en Israël, qui était environné de nations la plupart du temps hostiles, au moins à certains moments, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, toutes les nations, au moins dans une notable proportion de leur population, se tourneraient vers le Seigneur. C'était inimaginable. Ils n'évangélisaient même pas, d'abord parce qu'ils n'avaient pas le message complet, mais ils ne pensaient même pas à évangéliser, parce que les gens devaient se dire, mais de toute façon, ça ne sert à rien, ils sont rebelles, c'est des pécheurs. Or, cette prophétie s'est accomplie. Ça fait 20 siècles que, depuis Jésus-Christ, l'Évangile atteint les nations les unes après les autres dans une opportunité, dans une fenêtre favorable où une partie de ces gens, ou même toute une nation, peut se tourner vers le Seigneur et vivre des bénédictions. Les nations qui se sont le plus ouvertes au Seigneur, on ne veut pas comparer parce qu'on n'a pas de mérite. La Suisse fait partie de ces nations-là, heureusement, béni soit Dieu. C'est en train de se déliter un peu, mais quand même, la Suisse a fait partie de ces nations. Les États-Unis aussi, les pays scandinaves aussi, en partie. Certains pays de l'Est également, puis maintenant c'est le tour de certains pays africains ou de certains pays asiatiques ou sud-américains, etc. Mais les nations qui l'ont fait, elles ont vu dans leur évolution ultérieure, au moins pendant quelques siècles, une atmosphère qui changeait, des progrès. Il y a un livre de Lauren Cunningham qui parle de ça. Comment c'est le titre, là ? La Bible transforme les nations. Un titre un peu comme ça, mais quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que presque toutes les nations qui sont entrées en bonne partie dans un régime, on pourrait dire démocratique, avec la séparation des pouvoirs, avec un respect pour les minorités, avec une unité dans le cas d'une confédération, comme c'est le cas des États-Unis, de l'Allemagne, de la Suisse et d'autres, les nations qui ont pu vivre ça avec une certaine prospérité, c'est presque toujours des nations qui se sont imprégnées du message de la Bible et qui ont cru ce message. Alors, bien sûr, on peut croire les valeurs que véhicule la Bible sans être forcément chrétien, il faut le dire aussi, parce que si vous regardez les philosophes du XVIIIe siècle en France, ils ont récupéré pas mal de valeurs de la Bible et ils étaient tous non-croyants, enfin, Rousseau un peu moins, mais ce n'était pas un croyant comme l'Évangile l'entend. Mais les autres, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, tous ces gens-là, qui étaient très intelligents, ils ont reconnu des valeurs qui venaient de la Bible, mais ils ne voulaient pas l'avouer, ils n'allaient pas dire que ça venait de la Bible, ils croyaient que ça venait des Grecs et des Romains. Oui, parfois aussi un petit peu, mais ce n'étaient pas des valeurs vivantes, celles-là, c'était des valeurs philosophiques. Mais alors, il s'est trouvé dans ces nations une minorité de gens qui connaissaient le Seigneur, qui connaissaient Jésus et qui vivaient avec lui. Et c'est ces gens-là, les gens qui étaient habités par l'Esprit du Seigneur vivant qu'il avait dans leur cœur. C'est ceux-là qui ont été les moteurs. C'est ceux-là qui ont permis à ces valeurs d'avoir de la valeur. Comme le dit le psaume 36, qui dit « C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » On a appelé ce siècle des philosophes français, mais il y avait aussi en Angleterre des gens du même acabit, en Allemagne aussi, le siècle des Lumières. Mais ce ne sont des lumières que par la lumière. Jésus est la lumière. Et si nous connaissons la lumière, alors nous allons aussi voir la lumière qu'il y a, pas seulement dans la Bible, même dans des textes de gens, de penseurs, qui ont trouvé effectivement des lumières. Chez les païens, il y a quand même un peu de lumière. On ne peut pas dire que tout est ténèbre. Mais ces lumières-là, elles ne sont pas à même de donner une lumière vivante à ceux qui s'y intéressent. Et c'est pourquoi le peu de progrès qu'il peut y avoir parfois, quand même grâce à une certaine influence de la Bible sur les nations, eh bien, elles ne peuvent pas déboucher sur quelque chose de durable, de puissant, qui donne la vie. La caractéristique de la foi chrétienne, c'est qu'elle donne la vie. Elle donne la vie éternelle. Elle ne donne pas juste quelques progrès. Elle donne la vie. Et ça, ça change la question. Alors, évidemment, on pourrait dire... Attendez voir, j'essaye de ne pas louper des choses à... Enfin, en tout cas, le but, c'est que à un moment donné, il viendra un temps où la connaissance du Seigneur sera semblable à de l'eau qui remplit le fond des océans. Il n'y a pas un centimètre cube qui échappe à cette eau. Ça remplit tout. Et ça, c'est un... Moi, je dirais, mais c'est extraordinaire de voir ça. Alors, voici ce qui est en train de se préparer, chers amis. Voici l'avenir pour lequel nous sommes appelés à avoir foi. Avoir foi. Qui a la foi que ça va se produire? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas vraiment. Oui, il y en a un qui lève la main. C'est un petit début. Non, je plaisante, mais voilà. Avoir foi dans ce qui... Comme Abraham... comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme Jérémie, comme tous ces témoins de la foi, comme Pierre l'apôtre, comme Jean l'apôtre, comme Étienne qui a été lapidé, comme Paul et Silas, des gens qui ont transporté avec eux le même esprit de foi dont il est dit d'Abraham que sa foi lui fut comptée comme... Comme quoi ? Justice. Une justice supérieure, hein, ce n'est pas juste la justice des tribunaux, c'est la justice divine. Eh bien voilà, nous pouvons vivre la même chose. Alors apparemment on dira, oui mais on est encore loin de, oh là là, on est loin de cet avenir-là, ce n'est pas Jojo. Et pourtant le Seigneur, il est ici, certains se désespèrent en disant « Ouais, mais ça ne donne pas beaucoup de résultats. On ne voit pas. C'est parce qu'on est un peu aveuglé. Dieu voit autrement que nous. » Et le Seigneur est... Oui, donc voilà, il est là. Il est là ce matin, au milieu de nous. L'Éternel, affectueux, il est là. Il est là. Tous ceux qui sont nés de Dieu ici, et je pense que c'est la grande majorité, sachez que l'Éternel est en vous, quel que soit votre état mental et psychique, même si vous êtes découragé. Avant-hier, j'ai eu la visite d'un couple que je n'avais pas revu depuis longtemps, avec qui j'ai été en relation parfois, et lui, le mari, me disait « Oh, j'ai vécu, il y a ces dernières années, tout en étant croyant depuis avant déjà, quand même un accident grave à l'épaule qui a fait sauter un tendon. Et cet homme en a tellement souffert. Bon, il y avait aussi le psychique qui était... Mais il a tellement souffert de cette douleur, pendant quelques mois, insupportable, qu'il a failli perdre la foi. Il a failli tout lâcher. Ça peut arriver. On dira, comment ça se fait? J'en sais rien. C'est un peu mystérieux. Mais le Seigneur permet parfois à des gens de vivre de telles épreuves qu'ils se demandent s'ils ne vont pas tout lâcher, alors que c'est d'authentiques croyants. Et peut-être qu'il y en a ici ce matin qui en sont là. Mais il m'a dit, à un moment donné, il y a eu quelque chose de nouveau, je ne me rappelle plus de toutes les circonstances qu'il m'a racontées, mais il s'est trouvé que tout d'un coup, cette douleur a diminué, elle est même partie, et il était rempli de la présence de Dieu comme il n'avait jamais connu. Il connaissait le Seigneur, il croyait déjà en Jésus. Mais il était rempli, quand on l'entendait parler, je me disais, mais effectivement, il est rempli, il est visité. Il a changé complètement. Moi, je ne savais pas tout ce qu'il m'a raconté parce qu'on ne s'était pas revu depuis au moins 2-3 ans. Mais en tout cas, on voyait, et ça doit encourager certains d'entre nous, quand je lis sur WhatsApp l'échange qui a lieu dans le groupe qui se réunit le lundi soir. Moi, j'y vais de temps en temps, mais pas régulièrement. Il y en a qui la rotent, hein, si j'ose dire. Et c'est pas drôle pour eux, mais il y en a qui, il nous est donné par la foi, par un afflux de foi qui nous vient du Saint-Esprit, de retrouver la forme, la joie, la paix. Donc ne désespérez pas si c'est long. Parfois c'est long, je sais pas pourquoi. D'autres fois c'est très court. Il semble que l'exaucement arrive le lendemain de qu'on a prié. Mais d'autres fois, ça peut durer même des années, peut-être pas au point que ça soit insupportable, mais où c'est quand même un peu usant quand les années passent, puis vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Nous, avec notre petit-fils Benjamin, bon, heureusement, il ne va quand même pas si mal que ça. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a un handicapé moteur cérébral sévère, ça fait quand même des années, ça fait 25 ans. Alors on a été bénis beaucoup, Suzanne et moi, et de notre famille aussi. Mais il y a certains points comme celui-là, au moins ça n'empire pas, c'est déjà bien, mais ça ne s'améliore pas non plus. Pourquoi, je ne sais pas. Mais l'important, c'est de rester attaché, de rester fidèle à Jésus, parce que c'est lui le point d'ancrage. Bien sûr, le Père, c'est encore plus grand, mais au moins, le point d'ancrage, c'est Jésus. Moi, je dis aux gens qui sont tentés de tout lâcher, je leur dis, écoute, tu peux douter de certaines choses, parce que la vie est dure. Nous vivons dans une ambiance avec les médias qui est délétère. Mais ne lâche jamais Jésus. C'est mon message. Ne lâche jamais Jésus. Il est ressuscité des morts, il a prouvé son amour, il est là, il est avec toi, son esprit est en toi. Et l'esprit de Dieu, c'est la clé. Si nous restons attachés au Père par Jésus, son esprit est en nous, son esprit est en vous, en moi. C'est ça qui nous permet d'être bien disposés et de continuer de progrès en progrès. Si vous prenez le dernier numéro du lien, qui est là, il y en a quelques numéros que j'ai mis au fond, mais j'en ai aussi ici. On m'a demandé de donner mon témoignage pour illustrer le thème de ce numéro, puis je raconte, enfin je vous l'ai déjà raconté pour certains, pour à la fois ce qui s'est passé quand j'avais 14 à 15 ans à ma conversion, alors je ne raconte pas maintenant, et puis quelques années plus tard, j'étais déjà pasteur, quand le Seigneur m'a baptisé dans son esprit. C'est raconté là-dedans, vous pouvez regarder. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Et le Seigneur, il est là, il est prêt à disponible pour tous ceux qui l'attendent. Et je crois que le Seigneur va nous donner un degré de foi dans les années que nous vivons maintenant, supérieur à ce que nous avons connu autrefois. Autrefois, nous avons eu la foi pour être sauvés. La moyenne générale, c'est qu'on croyait que Jésus avait fait quelque chose de tellement bien aux yeux de Dieu qu'il avait racheté nos péchés, qu'il avait couvert, lavé tout ce qui n'allait pas dans notre vie, et on savait qu'on était sauvé par ce moyen. Ça, c'était la foi telle qu'on l'a connue en général. Et puis d'autres choses que Dieu exaucait, pouvait exaucer nos prières, pouvait les exaucer toujours, on avait quelques doutes, mais enfin, il pouvait le faire, ça, on savait qu'il pouvait. Et puis parfois, on recourait à lui. Tandis que maintenant, je crois que le Seigneur, oh, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais dans les années que nous vivons, qui sont certainement les temps qu'on pourrait appeler, pas la fin des temps, parce que ça fait 20 siècles que c'est la fin des temps, mais les temps de la fin, c'est un petit peu différent. Je crois que nous arrivons dans les temps de la fin, vraiment le finot. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos-là? Oui, une qualité de foi qui n'est pas seulement dans la foi dans ce que Dieu a fait quand il est venu la première fois, parce que c'était seulement une première fois quand il est venu. C'était beau, mais c'était une première fois. Il est venu dans la discrétion. Dans sa première venue, Jésus est venu dans la discrétion. Pourtant, la puissance de Dieu était en lui à un point extraordinaire. Mais il disait, n'en parlez pas trop, ne prenez pas un haut-parleur dans les rues pour dire, et surtout à ses disciples, il disait, ne dites même pas que je suis le Messie, les gens doivent le trouver eux-mêmes. Ils ne doivent pas se le dire, se l'entendre de l'extérieur et puis y croire, parce que la foule y croit aussi un peu. Non, il est venu dans la discrétion, mais il est venu dans la puissance et la sainteté. Il est venu dans la puissance et l'amour. Ça, c'est la différence. Et le Seigneur revient, bien que le mot se trouve pas là. Vous savez que le mot se trouve pas dans la Bible. Il n'est jamais dit que Jésus revient, il dit Jésus vient. En parlant de la deuxième fois, la dernière fois, enfin la dernière, la foi définitive. Jésus vient définitivement, c'est pas encore fait, nous l'attendons, et le Seigneur voudrait nous donner, et veut nous donner, un niveau de foi qui fait qu'on arrête de se bloquer, de se braquer sur le monde, sur ses séductions, sur ses attraits, sur ses mensonges, sur ses menaces, sur tout ce qui nous effraie, mais qu'on ait foi dans ce qui vient, dans ce que le Seigneur a préparé. C'est sûr, il vient pour renouveler la terre, de fond en comble. Il vient pour nous élever. Quelqu'un a parlé de élever là tout à l'heure. Cette semaine qui vient de passer, nous avons eu un jour férié pour rappeler, mais qui s'en rappelle, que Jésus a été élevé, non seulement incarné dans un homme, non seulement crucifié pour nos péchés sur la croix, non seulement, ce qui est absolument extraordinaire, ressuscité des morts pour valider sa mort sur la croix et pour nous montrer qu'il était le Fils éternel, mais élevé à la droite du trône de Dieu. Alors quand on dit à la droite, il y a des gens ils se moquent, qui disent que ça peut faire que ça soit la droite ou la gauche. Non, mais c'est une manière de dire dans la puissance de Dieu. Il a été élevé à la droite. Moi, j'aime bien ces images très anthropomorphiques. Je trouve que c'est bien. On prend un langage, la Bible prend un langage humain proche. Même le mineur de fond, au fond de sa mine de charbon, il peut comprendre. Alors que si vous dites, oui, mais ça veut dire que, puis vous embarquez dans des explications philosophiques, personne ne suit et ne comprend. Alors, le Seigneur a été élevé à la droite de Dieu pour pouvoir, pendant un certain nombre de siècles, diriger les opérations depuis le ciel, à travers nous, ses enfants sur la terre, qui avons de la peine, qui babolons, qui trébuchons, qui nous trompons souvent, mais qui des fois disent aussi des choses justes et qui font parfois des choses bien. Eh bien, à travers nous, le Seigneur prépare sa venue. Et le message d'Ésaïe, par exemple, et beaucoup d'autres prophètes, dont par exemple Ésaïe 40, est de dire, préparez la route au Seigneur, car il vient. Préparez-lui le chemin. Oui ? Ah oui. C'est d'une importance extraordinaire. Je reprends le cours, là. Donc, attendons-nous à cette nouveauté. Et puis, alors, une question pour la fin. Sommes-nous réellement disponibles au Saint-Esprit pour que l'obéissance d'une telle foi, pour une foi mise en action? On parle de l'obéissance de la foi, parce qu'une foi sans obéissance, ce n'est pas la foi. Tout le monde à la foi peut croire que Dieu, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Le diable aussi croit ça. Mais la vraie foi, c'est la foi qui prend Dieu au mot, qui lui obéit. Et ce n'est pas d'abord sur le plan moral, bien que ça soit d'une extrême importance. La loi dit des choses qui doivent être faites. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais nous sommes sous le régime de la grâce. Et le régime de la grâce opère par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Ne dites pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Bien sûr, il y a des degrés. À certains moments, Dieu nous... ce qu'on appelle, on baptise du Saint-Esprit, nous remplit de lui, nous plonge dans son esprit. Parfois, c'est une expérience très, très, très caractérisée. Moi-même, j'ai vécu ça quand j'avais une trentaine d'années. D'autres fois, c'est progressif, c'est comme quelque chose de lent qui se remplit. Peu importe, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'être tous faits sur le même schéma avec les mêmes expériences. L'important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Or, le Seigneur le fait. Les promesses de Dieu en Christ sont les seules capables de vaincre les problèmes de ce temps. Et le Saint-Esprit est l'agent qui nous permet de prendre les promesses de Dieu en Christ au mot et de se mettre en action pour qu'elles se réalisent. Vous voyez, il y a toute cette aspiration aujourd'hui de toute une jeunesse, puis des gens plus âgés aussi, qui sont en souci pour le climat, l'équilibre climatique. Ben, ils ont raison. C'est vrai. Il y a un problème. C'est grave. Et ils imaginent toutes sortes de procédés en disant « Mais réveillez-vous, ne dormez pas, il faut faire quelque chose ». Et ça donne des fois une ambiance un peu agitée, un peu stressante, qui ne plaît pas à beaucoup de monde, parce que c'est vrai, on n'est pas fait pour être stressé. Le Seigneur veut pourvoir à ces choses-là par ses moyens à lui, mais alors il faut être à sa disposition. La même chose avec les maladies, la même chose avec toutes sortes de fléaux qui frappent notre monde. Mais si nous sommes disponibles, si nous disons dès maintenant, dès aujourd'hui et pour tous les jours, Seigneur, je me mets à ta disposition, je suis comme un vase vide, tu peux y aller, je ne veux plus m'attacher, comme saint Paul le disait, à des choses qui apparaissent maintenant comme des ordures, comme de la gadoue. Il dit tout ça, ces vieilles choses, ma religion, même mon zèle, qui me conduisait à persécuter même des chrétiens. J'en veux plus, c'est fini, c'est dégueulasse. Ce que je veux maintenant, c'est toi, Seigneur, et seulement toi. Et il s'est mis à la disposition. Et tous les chrétiens, nous sommes appelés à faire la même chose. Un vase qui se met à la disposition du Seigneur. Eh bien, toutes ces promesses qu'on trouve dans la Bible, elles sont destinées à résoudre les problèmes. Que d'abord, elles nous permettent de traverser les fléaux comme on en a traversé spécialement au XXe siècle, dans les deux guerres mondiales, c'était terrible. Mais aussi maintenant, avec tout ce que je viens d'évoquer, la pandémie, les catastrophes écologiques, la guerre, pas seulement en Ukraine, mais la guerre dans bien des endroits, au Yémen, qu'est-ce qu'il parle du Yémen, et plein de pays où ça ne va absolument pas, où les gens meurent de faim, c'est horrible. Alors, nous pouvons devenir, si nous sommes prêts, des gens qui conquièrent cet espace nouveau, comme les Israélites ont conquis Canaan, pas par leur force, mais par la puissance de Dieu, par l'amour de Dieu, qui aimait ce peuple malgré ses égarements. Et c'est tellement grand, c'est tellement plus grand que des petites bénédictions passagères qui nous sont données provisoirement ce grand plan mondial de réconciliation du ciel et de la terre, qu'il nous faut écouter le psaume 24, je terminerai un peu là-dessus, on peut le montrer aussi, je crois qu'il est aussi sur Bimer. Dans le psaume 24, on ne va pas lire tout, mais oui, quand le psalmiste dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails antiques, que le roi de gloire fasse son entrée, enfin, c'est le moment. Porte, élevez-vous, écartez vos battants, montez vos linteaux. » Parce que le roi de gloire, il n'est pas petit, hein. Il est petit, il s'est fait petit, mais quand il revient, il est grand. Donc il faut élever, il faut écarter, il faut étirer, il faut faire de l'espace pour que le Seigneur puisse entrer. Et là, j'aimerais, je me mets avec vous parce que j'ai aussi besoin de ce que je prêche là, mais vous aider à cet élargissement. Il s'agit du cœur, bien entendu, il ne s'agit pas de porte matérielle, il s'agit du cœur. Élevez vos cœurs, élargissez votre pensée, élargissez votre foi, étirez-la à droite, à gauche, en haut, en bas. Faites la place, donnez-vous vous-même. Le Seigneur cherche pas seulement des âmes, il cherche aussi des corps. Pour que le Seigneur fasse son nom. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire, s'interroge le psalmiste. C'est le Seigneur, l'Éternel. C'est lui le roi de gloire, il n'y en a pas d'autre. Alors fais-lui la place. Voilà. Et puis alors, encore une dernière chose, si nous faisons cela, si nous faisons de la place, si nous les élargissons nos cœurs, nous verrons que il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir autour de nous, pas seulement celles que nous aurons ouvertes, mais aussi des gens dans nos familles, dans nos collègues de travail, des gens dans notre entourage qui vont commencer à ouvrir un peu la porte et à élargir un petit peu leur cœur. Ça peut être magnifique, ça peut changer l'ambiance d'une entreprise, ça peut changer l'ambiance d'un quartier, je crois. Mais il faut y aller. Ça prend du temps, c'est pas comme ça que ça va se faire en deux coups de cuillère à peau, mais ça va se faire. Et il y aura un potentiel de croissance. Nous qui sommes ici, si nous faisons chacun cela tous les jours, moi je crois que c'est tous les jours qu'il faut le faire, c'est pas trop demandé de dire tous les jours. Si nous nous mettons ensemble, soit deux, trois personnes, soit toute l'Assemblée, comme on a été exhorté à le faire avec les visites d'Hervé Guillois, de notre ami là, qui a fondé Turning, nous allons voir un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme parmi nous, et pas seulement à Lazare, dans toutes les communautés, il y a un potentiel énorme. On ne se rend pas compte, il faut simplement le faire. Il faut que Dieu trouve en nous. Voilà. Alors oui, qu'est-ce qu'on verra? On verra le loup qui peut habiter à côté de l'agneau. Eh oui. Je ne sais pas si ça se passera dans le règne animal, ça j'en sais rien. Mais c'est pas le but, c'est pas le loup et l'agneau, la panthère et le chevreau au sens animal. Peut-être oui, hein, moi j'exclus pas, c'est possible. Mais surtout, c'est parce que le monde sera rempli de la connaissance du Seigneur, la connaissance dans le cœur vivant, comme l'océan, le fond de l'océan est rempli par l'eau qui le recouvre. Alors, je vous invite à prier. Bon, on ne va pas prendre un long temps de prière maintenant, mais au moins dans votre âme, dans votre cœur, au besoin, prosternons-nous, pourquoi pas. Il n'y a pas besoin d'être juste toujours assis sur nos chaises, on peut s'agenouiller, on peut se mettre debout comme on le fait déjà, on peut prier avec un frère, avec une sœur, former même un petit groupe qui va se réunir régulièrement pour ça. Cultivons sans relâche je dirais, ce qu'on pourrait appeler l'esprit de prière. Pas juste la prière formulée par les mots, parce que ça, on ne peut pas le faire tout le temps, il faut quand même aller au travail, on a quand même une famille, on ne peut pas prier tout le temps dans ce sens-là. Mais on peut prier, on peut cultiver l'esprit de prière, qui fait que même quand on est au travail, même quand on est dans les loisirs, il y a quelque chose en nous qui continue de prier malgré le peu d'attention qu'on y met parce qu'on a autre chose à faire. Mais au moins, le Seigneur travaille en nous, et c'est pour ça d'ailleurs que le parler en langue nous a été donné. Un esprit de prière, de grâce, de supplication, parce que les temps que nous vivons l'exigent. C'est le moment, c'est le moment. Seigneur, merci. Tu connais chacun. Tu connais chacun de nous. Tu vois nos difficultés. Tu vois combien nous traînons les pieds, même pas volontairement, mais voilà. Combien c'est parfois pénible et difficile pour certains, mais combien ça peut être aussi joyeux et renouvelant et roboratif pour nous tous, si vraiment nous le cherchons, si nous te cherchons. Merci pour la communion fraternelle, merci pour l'amour que tu veux mettre entre nous. Merci pour la construction de l'Église qui ne dépend pas du programme des hommes et des organigrammes, mais qui dépend de toi et de nous, à cause de toi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis chaque jour. Le réveil commence par soi-même, par moi, par vous. Et il continue chaque jour avec des gens décidés qui sont d'accord de remettre leur vie entre les mains de Dieu et de ne pas s'attacher aux choses de ce monde qui les distrait constamment. Amen, amen.